Bien, eh bien, je crois qu'il est temps de se lancer. Donc, bonsoir. Merci d'être resté ici après le débat précédent pour nous écouter débattre sur une question préoccupante, à savoir, pour reprendre une formule d'Isaac Newton, les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts. Alors, pour se questionner sur ces notions de murs et ces notions de ponts, nous avons quatre auteurs avec nous. Tout d'abord, Karina Rosenfeld, qui est un jeune auteur de littérature de science-fiction, puisqu'elle n'a pas tout à fait 40 ans, qui vient de se lancer dans l'écriture et qui publie des livres aux éditions La Talente. Dont les derniers viennent de sortir. Donc le livre s'appelle Dorégone. Réédition de ton premier roman également, si je me souviens bien, Le Mystère Olfite. C'est ça? D'accord. Parce qu'il faut que je le fasse comme ça un peu pour la sécuriser.
T'es mon directeur de collection,
Ah
tu devrais le savoir.
raté. Ainsi qu'une série aux éditions. Oui, mais bon, je le faisais clandestinement là. Ainsi qu'une série aux éditions Intervista, La Quête des Livres Mondes, et un roman publié dans la collection Soun aux éditions Syros, qui s'intitule Les Clés de Babel. À ma gauche, toujours Dmitri Glukhovski, qui publie un roman de science-fiction post-apocalyptique qui s'intitule Métro 2033. Voilà, dont on a beaucoup parlé hier soir quand on a abordé le thème du communautarisme, et qui est ton premier roman traduit en français d'ailleurs, puisqu'il y a un Métro 2034 qui sera peut-être traduit un jour. Je sais pas si.
Jusqu'à 3 000 comme ça, hein. On va aller.
Bon, ça va, c'est très bien, c'est une rente pour l'éditeur. Il se trouve que c'est la même maison d'édition, donc de quoi se plaindre. Nous avons également avec nous Sylvie Lainé, qui est professeur de sciences de l'information et de la communication à l'université de Lyon. Lumière? Non, Lyon 2? 3? Oh, bon, décidément, ça change tout le temps à Lyon. Et puis surtout, Sylvie est quelqu'un d'assez atypique sur ce plateau, puisque c'est. Moi, je la présente toujours comme la reine de la nouvelle. Hein, c'est une militante de la nouvelle et qui écrit des textes très très beaux qui sont publiés actuellement aux éditions ActuSF. Moi, j'avais retenu particulièrement Le Miroir aux Éperluettes, mais il y a eu deux textes depuis. Oui, le recueil qui s'intitule, dit-il en
Donc,
ramant.
après le premier recueil, Le Miroir aux Éperluettes, il y a eu le recueil Espace insécable
Espace insécable.
et ensuite Marouflage.
Et Marouflage, merci. Évidemment, je les ai lus, mais j'ai eu un petit trou de mémoire passager. Et donc, nous avons également avec nous China Miéville. Qui est pour l'instant de tous mes débats, donc c'est très très bien, et qui est l'auteur bien connu aujourd'hui donc de sa série de science-fiction, de fantasy, d'imaginaire en tout cas, mais on pourra parler de ça aussi, les murs entre les genres littéraires, commencé avec Perdido Street Station, Le Concile de Fer, et là récemment, nous avons eu un roman plutôt destiné aux adolescents qui s'appelle L'Ombre sur une version, un Londres inversé. Voilà. Donc, la première question qui me vient naturellement à l'esprit quand je vois cette question des murs et des frontières, c'est faut-il construire des murs et pourquoi? Et là, je pense que je vais passer la parole à Sylvie Lainé qui a des choses à dire sur la question.
Bon, alors j'espère que c'est pas parce que je suis professeur des universités, parce que sinon je dirais des choses extrêmement ennuyeuses.
Non, non,
Donc on va vite oublier ça.
c'est parce qu'on en a parlé avant.
Oui. Moi, je suis persuadée que tout se construit à partir des murs et sur les murs. Et la première chose que fait un petit bébé pour prendre conscience de qui il est et quelle est son identité, c'est de tracer une limite entre ce qui est lui et ce qui n'est pas lui. Et je pense qu'on passe toute notre vie, finalement, à nous définir, à construire notre propre identité en distinguant ce qui fait partie de nous, les croyances auxquelles nous adhérons, les principes que nous choisissons de mettre en avant, et ce qui n'est pas nous, ce que nous avons défini comme étant extérieur. Et qu'une fois qu'on a fait ça, on peut se poser plein de questions sur les murs, mais que tout commence par les murs.
Donc tout commence par les murs et ça se poursuit comment? On continue à bâtir des murs contre l'autre ou des murs pour soi?
Alors moi je voyais les murs, alors je ne sais plus si c'est des murs ou des frontières puisqu'on discute de beaucoup
Parlons de
sujets
murs.
Qui se rapprochent. C'est peut-être pas tout à fait des murs puisque un mur serait quelque chose d'étanche. Encore que j'en suis même pas sûre parce que les fenêtres sont importantes et pour bâtir une fenêtre il faut qu'il y ait un mur. Il n'y a pas de fenêtre s'il n'y a pas de mur. Ensuite... Le mur n'est pas nécessairement quelque chose d'étanche. Et ce qui peut être intéressant, c'est d'examiner sa porosité. Et puis le mur n'est pas nécessairement quelque chose d'immobile. Et je pense que ça devient intéressant aussi d'examiner les murs en tant que structure mobile et fluctuante.
Donc, il est nécessaire de construire des murs. Tu as écrit une nouvelle qui s'intitule « Définissez priorité » sur une communauté reliée télépathiquement et dans ta nouvelle, il est nécessaire de construire des murs.
Alors dans cette nouvelle, chacun des membres d'une petite communauté complètement isolée du reste du monde et grâce à des procédés extrêmement scientifiques, des nanomachines en connexion télépathique... Mais en fait, les premiers temps de cette connexion télépathique ont été extrêmement douloureux parce que, mais on en revient à ce que je disais tout à l'heure, je suis vraiment persuadée que pour exister, il faut à un moment donné décider de ce qui est extérieur. Et si on arrivait à établir une télépathie totale et absolue, notre propre pensée serait dissoute dans la pensée de l'autre et je pense qu'on perdrait son identité. En tout cas, le problème qu'ils ont, eux, et ce qui a failli d'ailleurs détruire la communauté, c'est le fait que lorsque la télépathie était totale et qu'elle permettait de ressentir les émotions de l'autre, ces émotions devenaient extrêmement destructrices quand on était obligé de subir les émotions de quelqu'un de différent. Dans mon histoire, le corps qui subit cette émotion qui n'est pas naturelle et spontanée est obligé de suggérer une cause à l'émotion ressentie. Et finalement, il y a des phénomènes qui s'enclenchent, un peu comme des effets de Larsen, qui font que ça devient extrêmement douloureux. Donc, dans mon histoire, la télépathie doit être protégée par des murs qui permettent de partager un projet, de partager une action, mais de mettre de côté tout ce qui est émotionnel que l'on ne peut pas partager sous forme brute. Donc, voilà, c'est avec le danger de se diluer.
Moi, je pose la question maintenant à Dmitri Gloukovski. Qu'est-ce que tu penses de ce que vient de dire Sylvie? Parce que quand on lit ton livre, ce ne sont que des petites communautés bardées de murs. Et le mur est une nécessité pour la survie, puisqu'au-delà du mur rôde le danger. D'accord? Et sans raconter le livre, cette question aussi de l'échange avec l'autre se pose en permanence. Quelle est ta position là-dessus?
Bonsoir. J'ai l'impression qu'on partage les associations qu'on a avec le mot mur, donc je vais partager les miens. Et si c'est ça la discussion. Oui. Donc, voilà.
Et d'autant plus, alors je précise.
Moi, je viens derrière le rideau de fer.
Ouais. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je précise pour ceux qui ne connaissent pas Dmitri Gloukovski, qui est un auteur russe, donc qui arrive de Russie et de la Russie d'après le bloc soviétique. Donc, c'est
voilà,
donc, tout ça.
Moi, je suis un auteur russe qui vient de derrière le rideau de fer, qui maintenant est ouvert dans une direction. Donc, les Russes peuvent venir chez vous, et vous le savez bien, surtout ceux qui habitent Côte d'Azur ou Paris. Et certains d'entre vous qui sont assez obstinés pour obtenir le visa russe peuvent aussi aller chez nous, mais c'est un processus un peu compliqué. Donc, le bouquin duquel notre cher modérateur parle décrit Moscou après une guerre atomique, dans laquelle, dans l'année 2033, les gens sont obligés à s'héberger dans le métro moscovite qui a été construit comme le refuge nucléaire le plus grand au monde. Et voilà, donc 20 ans après, ils ne peuvent toujours pas ressortir, remonter sur la surface parce que la surface est contaminée par la radiation. Donc, ils sont bloqués dans le métro, toujours. Et le métro déviant sort de l'arc de Noah, où les gens doivent passer le reste de leur vie. Et les stations sont devenues des petits états, des communautés encerclées par murs et dans les tunnels c'est le noir, c'est le vide, c'est les monstres, c'est l'inconnu. Donc voilà, et pour moi
c'est la peur,
c'est surtout la peur. Donc pour moi, je dirais L'association, la première association que moi je l'ai avec le mot mur, ça serait la sécurité. La sécurité, parce qu'on s'entoure de murs pour se sentir défendu, pour se sentir en sécurité, pour se sentir que les autres choses qui nous entourent, en fait, ils ne peuvent pas pénétrer. Donc c'est surtout ça. C'est aussi bien sûr les frontières, mais c'est les frontières pour quelqu'un qui est très sûr de sa vie, qui est très sûr du fait que rien ne le menace. Et voilà. Et pour les gens qui vivent dans les sociétés en transition, je dirais, et dans les sociétés un peu en chaos, et dans les sociétés qui ont vécu, qui sont en fait les ruines d'un empire, le mur, c'est quelque chose d'entièrement différent. On aime bien s'entourer de murs parce que sans les murs, on est très vulnérable. Et sans les murs, on se sent très, très mortel, en fait. Donc voilà, pour moi, les murs, c'est pas, d'un coup, c'est pas nécessairement quelque chose de négatif. Hein.
Oui, mais le mur emprisonne aussi. Et historiquement, chez vous.
Ça dépend.
Le rideau de fer.
Si c'est toi qui ouvres la porte, ça va. Si c'est quelqu'un d'autre qui doit t'ouvrir la porte, hein, là, peut-être, il vaut mieux vivre sans les murs. Ouais. Voilà, je peux continuer infiniment.
Peut-être pas infiniment. En fait, je me posais une question sur ton livre, sur la fin du livre. Alors, c'est un peu embêtant de parler de la fin parce que...
C'est pas grave, parce que je pense pas qu'ils...
Faut pas la raconter, mais...
Ils vont lire, donc...
La question des murs, et des murs cette fois mentaux, des murs de la personnalité et des murs de la télépathie se pose aussi.
On peut, ouais. Donc, c'est surtout... Comme hier, on revient à la question plutôt d'identité et d'identité de nous-mêmes contre les ennemis. Parce que, bon, dans ce setting que je décris, dans la ville de Moscou post-nucléaire, où les gens sont obligés, en fait, ils sont... comment dire, ils n'auront jamais la possibilité de retourner à la surface et remaîtriser le monde, il y a une menace qui apparaît. Qui est une nouvelle race qui s'appelle les Noirs. Nous, on peut se permettre d'être pas très politiquement correct. Ça n'a rien à voir avec des Africains ou des Maghrébins ou d'autres. C'est juste une race qui a une couleur de peau très très noire et aussi les yeux noirs. Et donc, c'est pas des êtres humains. C'est des humanoïdes, mais bon. Et c'est immédiatement perçu, bien sûr, parce que c'est une énorme référence au thème de xénophobie. C'est immédiatement perçu comme une source de menace mortelle par les gens qui habitent la station où le héros principal habite. Donc lui, il est chargé du coup d'une mission de trouver quelqu'un qui peut lui aider, d'exterminer les Noirs. Il passe station par station, on se lance dans ce voyage par le métro, station par station, dans les différentes sociétés, communautés, idéologies, religions, pour trouver une solution et avoir la possibilité d'exterminer les Noirs. Et voilà, donc à la fin, il va découvrir que peut-être sa mission a été différente et qu'elle a dû servir en pont entre les races. Mais à cause des murs qu'on se construit autour de nous, dans notre connaissance, à cause du fait qu'on est très incliné de percevoir chaque chose alien et inconnue comme une menace, à cause de notre peur, on n'arrive pas à essayer même de comprendre les êtres qui sont différents de nous. Donc voilà, et à la fin du livre, il est confronté avec un choix, soit détruire, soit ne pas détruire, soit croire, soit ne pas croire, soit percevoir ça comme menace, soit comme opportunité pour l'humanité. Et c'est la question des murs, après.
Ouais, donc les murs, c'est ceux qu'on se construit à soi-même pour ne pas aller vers les autres qui nous font peur. Et quand on va vers les autres, on crée un pont, puisque ton héros fait, de fait, littéralement le tour du monde.
Mais les murs, c'est toujours, ça a toujours à voir avec la peur. Soit c'est la peur que nous avons, soit c'est la peur que les autres ont de nous. Dans le cas des criminels, soit c'est criminel, normaux ou politique. Les murs, c'est la conséquence des peurs, hein.
Tout à fait. Et du coup, je repartais sur cette idée, puisque quand on prend les livres de Karina Rosenfeld, c'est tout à fait différent. Là, c'est A Million Open Doors. Et on le voit bien dans Dorégone, puisque le Dorégone, c'est le point focal d'où s'ouvrent toutes les portes qui vont donner sur, sur un vaste univers.
Merci. Alors,
plutôt sur le multivers.
Oui, alors c'est marrant parce que ce que racontait Dimitri, ça me fait penser au livre déjà Les Clés de Babel, où le point de départ est le même, c'est-à-dire que c'est une civilisation post-apocalyptique, une catastrophe écologique qui a forcé les hommes à se réfugier dans une tour gigantesque qui s'appelle Babel, et où les hommes se sont organisés en strates, toutes séparées les unes des autres, et se sont organisés en cultures, en sociétés, en religions différentes en fonction de ces strates, sauf que là, c'est pas sous terre, c'est dans une tour, et donc c'est organisé verticalement. Et le héros, qui est plus jeune, hein, c'est la littérature jeunesse, il a 14 ans, lui, il va devoir descendre, il part du haut de la tour où il habite, et il va devoir descendre dans la tour pour relier les sociétés entre elles et pour trouver la sortie qui va leur permettre de s'échapper de la tour. Donc c'est vrai qu'au départ, dans ce livre, les murs sont indispensables, puisqu'ils protègent l'humanité du poison qui est à la surface de la planète. Et en fait, le but, après, c'est de les abattre, déjà entre les hommes, entre eux, et ensuite d'abattre les murs qui séparent de l'extérieur pour retrouver la vie dehors quand la Terre s'est régénérée et qu'il est temps de sortir. Pour parler d'Oregon, donc le dernier là que j'ai publié à la Talente, c'est vrai que c'est, comme dit Stéphane, c'est l'open space, c'est-à-dire que d'Oregon est un monde dans lequel s'ouvrent d'autres mondes. Par contre, il faut quand même un mur au moins, puisque mes portes vers les autres mondes sont des tableaux qui sont accrochés à des murs. Donc là, ils sont quand même indispensables. Ce sont des fenêtres, des portes qui s'ouvrent vers d'autres univers, et là c'est en fait une mise en abîme totale d'un monde qui s'ouvre sur deux mondes, qui s'ouvre sur deux mondes, ça peut être comme ça à l'infini, et là c'est l'ouverture totale. Mais malgré tout, ces mondes, le but dans l'histoire de l'héroïne, c'est d'être le veilleur de ces mondes, de les surveiller, parce qu'ils se créent en permanence de nouveaux mondes, et elle doit vérifier que ces mondes ne sont pas dangereux, parce qu'effectivement, si elle juge que ces mondes sont dangereux, elle va les refermer. Elle va refermer le tableau, elle va refermer la porte qui s'ouvre vers ces mondes. Donc on a quand même besoin aussi de pouvoir mettre une barrière entre un danger et soi quand on le détecte. Donc on en vient quand même à la conclusion que les murs peuvent être importants et indispensables dans certaines situations, même si on a envie d'ouvrir tous les ponts qui relieraient vers les autres.
Qu'en pense Chaina Mieville de tout ce qui a été dit? Puisque de fait, dans son œuvre, il n'y a pas tant de murs que ça, mais il y a des peurs, il y a des protections en contre l'autre. Comment tu abordes la question, toi, de ton côté? La nécessité du mur ou...
J'espère que vous allez m'excuser parce que je vais parler en anglais, parce que sinon je vais penser au sujet de la langue et pas au sujet des questions. I think the thing about walls is that, in a sense, the word itself is so broad as to be, it's difficult to tell how helpful it is, because I agree with Sylvie. I think humans are taxonomizing creatures. I think one of the things we do all the time is to organize things as a way of making sense of a world which otherwise we would inhabit as a kind of endless chaos with no disparity between ourselves and the rest of the world. If that is what one means, you know, at one level that is a wall, and I have no objection to that. It's simply it allows one to think, you know, if there is no wall, there is no other, and if there is no other, there is no self. But the problem is, I don't think you can extrapolate that up all the way through the kind of different layers of analysis and say that therefore other walls are functions of the same sort of thing. I think that we're talking about radically different things at different levels. The issue of fear that's been brought up, I think, is obviously very important, but it's also very important to stress that in a real-world situation, as well as in fiction, the fear can often be generated by the wall rather than the other way around. And often walls are put up... think of the walls around the Warsaw Ghetto. I mean, these walls are put up very, very deliberately as a way of creating fear of what's on the other side and anxiety and hatred for what's on the other side, rather than saying there is a fear and therefore a wall gets thrown up. So the dialectic, if you like, between wall building and social exclusion is works both ways. And I think that, you know, that is something that fiction can potentially sort of examine quite fruitfully. But we are talking about real-world situations. And then again, you know, there is a difference between a kind of conceptual wall dividing communities and, in certain places at certain times in history, very real walls built of concrete with barbed wire at the top keeping people apart, and they do a different job again. So I would want to be very careful about using the notion of a wall as a kind of universalizing heuristic which we can use to describe the way humans are humans. I think we're talking about quite radically different things at different levels of analysis. Mm-hmm. Did that answer the question at all, or did I just sort of ramble?
Non, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on a justement des cas assez différents, puisque chez Dmitri, on a les murs vraiment, puisqu'on est dans l'enfermement, dans le mur physique, alors que chez toi, on a plutôt la notion du mur social. Il n'y a pas de mur physique.
I think physical, I suppose, physical walls, I think, pretty much always throw up social walls, and social walls often throw up physical walls. And, you know, historically, I mean, look at the case of Northern Ireland. Look at the case of, you know, in Belfast, where, you know, communities were literally divided by big brick walls. Look at the West Bank wall at the moment. Look at, you know, there are walls around the world that are literally physically dividing communities. One of the interesting things aesthetically about such walls, when one's talking about a social wall that has been transmogrified into a literal physical wall, is that the moment that happens, as you brought up windows, there is also, you know, a wall is a kind of a big blank space, but it's very, very visible. And it, to a certain extent, it opens itself up to, and I wouldn't want to overstress this because I don't want to kind of celebrate resistance in a very facile way, but it does open up certain counterintuitive modes of expression. And so you have, as you had in Belfast and as you have in Palestine at the moment, you have artistic movements revolving around using the wall as a canvas, as a way of drawing attention to the wall and sort of, you know, making something new out of it. Now, for my own opinion, that is a very fascinating and brave and impressive thing to do, but it is ultimately a beautiful expression of despair. So I would still rather the wall wasn't there than that the wall was there and there were these amazing pictures on it. But it is a creative, it is a kind of testament to people's creativity in situations of walling that these things can happen. So, I think ultimately the more literal and physical the wall, the more pernicious, because people who are putting up walls can see the walls and have accepted that they are separating themselves off. That's what, you know, so it separates in both directions, I think.
Et c'est vrai qu'il y a aussi toute l'expression artistique qui en découle, comme tu l'as dit, avec les taggers à Berlin et autres, où il y a eu des choses assez fascinantes qui ont été faites, et puis la mise en danger de soi à travers tout ça, quoi. C'est assez amusant parce qu'on se faisait une réflexion tout à l'heure qu'aujourd'hui, quand on va sur Facebook, pour écrire à quelqu'un, ça s'appelle un mur. Alors, c'est assez fascinant d'aller sur Facebook, qui est théoriquement l'espace le plus ouvert, et d'y remettre des murs. Alors, je ne sais pas si Sylvie a quelque chose à dire, parce que là...
Mais moi, ça me paraît très cohérent, parce que je pense qu'il est logique que ce qui sépare devienne un espace d'affichage et paradoxalement de communication. Comme disait China tout à l'heure, s'il n'y avait pas de mur, il y aurait une sorte de magma indifférencié. Et s'il n'y a pas des frontières et des séparations, il n'y a plus rien par-dessus quoi passer pour se rejoindre. Donc il faut un endroit où marquer la différence et un endroit où la dépasser, un endroit où écrire au travers et un endroit où écrire par-dessus. Et qu'est-ce que ce serait si c'était pas des murs ? C'est un beau défi d'ailleurs. Qu'est-ce que ce serait qu'essayer d'imaginer encore plus loin que ne le faisait Karine peut-être un espace complètement indifférencié, sans séparation, sans communauté dissociée, où tout le monde est partout chez soi. Ça remet tout de suite en cause l'idée de propriété. C'est la première idée qui me vient. Ça a des résonances politiques. Si on abolit les murs, on n'a plus de maison. Toutes les maisons sont à tout le monde. Donc, voilà, je ne sais pas si on bascule vers l'anarchie, mais... on ne sait pas raisonner sans mur. Enfin, moi, j'en suis personnellement incapable.
C'est intéressant parce que du coup, ça veut dire qu'on ne peut même plus concevoir de société sans mur. China, Dmitri, Karina.
Again, sorry. Again, I think it depends what you mean by wall. I insist again on my argument that we are asking this one word to do too much. If you mean one cannot conceive of a society without conceptual differences between one thing and another thing, including oneself, then yes, my God, I hope so. But if you mean one cannot conceive of a society without walls dividing atomized property from another atomized property and sovereign individual, then this is self-evidently untrue, because there have been such societies at different points in history with radically different conceptions of what constitutes the subject, the person. You know, you talk about no difference between my house and your house. There have been, you know, many cultures in which the notion of my house versus your house was meaningless, you know. So now, whether or not one would want to live in them is moot. That's not the issue at this point. But the point being that you know, walls in the very very loosest sense of kind of you know, conceptual boundaries between thisness and thatness thrown up by a sense of the self, I think, are absolutely inevitable. But political walls, I think, come with very different political circumstances and are not inevitable at all. I think if I thought they were inevitable, I would be politically very despairing. Did I finish everything?
J'en ai peur.
Mais moi, personnellement, je ne pense pas que les murs soient quelque chose de destructif, d'ailleurs. C'est de détruire les murs qui peut être plus dangereux, des fois. Et seulement dans une société idéale, qu'on pourrait éventuellement se permettre de penser à abolir des murs. Et il n'y a pas beaucoup d'exemples des sociétés idéales. Même, je connais des Français qui auraient préféré s'entourer des murs pour être protégés des banlieues. Donc je dirais sûrement pas notre société à nous, pas la société américaine. Et donc, il n'y a pas beaucoup de sociétés qui peuvent se permettre de vivre sans murs. Déjà, comme on a mentionné ici, le terme de propriété privée implique des murs. Et la propriété privée, peut-être, c'est un des facteurs qui a poussé la société occidentale et la culture occidentale à avoir ses préférences dans la compétition globale. C'est pour ça que l'Europe, en fait, elle a beaucoup plus de succès, au moins matériel et technologique, informatique, que d'autres pays au monde, d'autres cultures. Peut-être c'est parce que quand tu peux accumuler et personne peut venir te prendre ce que tu as des raisons pour accumuler, pour progresser, pour avancer, parce que... Ouais, tu vois des résultats et personne ne peut pas dire non, c'est pas à toi, c'est à moi. Parce que tu peux s'entourer des murs. Donc en fait, je vois rien de destructif en mur. Je pense que les murs, c'est quelque chose de dicté par notre entière évolution biologique et culturelle. Et que en fait, les murs, je sais que c'est une pensée peut-être un peu dégoûtante, mais ils nous aident. Et il nous propulse et il nous aide à avancer beaucoup. Et si nous allons, vu que c'est pas en séminaire linguistique et culturel, après tout, c'est science-fiction, si nous allons conquérir l'espace, c'est le mur que nous avons besoin, et beaucoup, pour nous protéger des formes extraterrestres qui, dans des cas très très rares, auront pu avoir la raison. Et la façon de penser. Dans la plupart des cas, ça serait juste des organismes chaotiques, et des fois agressifs ou dangereux. Donc, moi, je dis, faut pas détruire les murs pour l'instant.
Quelque chose à ajouter l'un ou l'autre ?
Non, je pense que, effectivement, à partir du moment où l'être humain est devenu un être humain, il a eu la notion de... J'ai le mot qui m'échappe. D'intimité, pardon. Et à partir du moment où il y a de l'intimité, ça veut dire qu'on a besoin de se cacher du regard de l'autre pour les gestes de la vie quotidienne. Et à ce moment-là, on est obligé de bâtir des murs. Voilà.
Donc le mur est itinérant à l'être humain.
Voilà, le mur itinérant, c'est les animaux qui ne bâtissent pas de mur et qui vont manger, s'accoupler, dormir au milieu du troupeau sans différenciation. Et l'homme a toujours créé des murs, même quand il allait dans ses cavernes, il tendait des peaux de bêtes entre les différentes familles, il y avait toujours une intimité qui était respectée. Et effectivement, je pense que le mur fait partie de la conception de l'humanité. Mmh. Et à partir de ce moment-là, les murs ne peuvent pas, sont obligés d'exister tant qu'on a besoin de cette intimité, qu'on a besoin de notre personnalité, de notre vie intime, de ne pas être au regard, asservi au regard de l'autre. Donc, comme le disait China, je pense que ça dépend de la conception du mot mur. Est-ce que c'est le mur d'une maison ? On est chez soi, on est protégé des intempéries, on est protégé du regard extérieur, et là, le mur est nécessaire. Ou est-ce que c'est le mur politique, le mur psychologique qui est là pour séparer les hommes en dehors de toute notion d'intimité ?
Sylvie, peut-être ?
Oui, alors... C'est la première fois qu'on parle d'intimité. Ouais. Et alors, du coup, comme j'ai un farouche esprit de contradiction, je commence à me dire que on est peut-être en ce moment dans un environnement où il y a moins de murs qu'avant, justement, parce que je crois que tout ce qu'on se retrouve à exposer sur les réseaux, dans nos univers, dont on imagine qu'ils sont pas dangereux parce qu'ils sont virtuels, finalement, on laisse de moins en moins de place à l'intimité. On s'en rend peut-être même pas compte. Mais on expose de plus en plus de nous et de nos pensées. Peut-être qu'on se met pas tout nu en photo sur Facebook, mais on y met sans hésitation des pensées fugitives qu'on a eues à une occasion donnée. Et on les met de manière... Oui, mais on ne réfléchit pas toujours au fait que ça va rester très longtemps, et que ça va peut être vu par plein de gens, et que ça peut être interprété de différentes manières, qui sont très différentes du contexte où on les a produits.
Parce que si tu mets bien en place tous les systèmes de confidentialité, tu te crées des murs même sur un système de réseau social.
Quand on met un blog...
Mais ça, c'est un choix personnel.
Oui.
Fermer un rideau le soir pour pas que les gens qui soient dans la rue, c'est aussi un choix personnel. Ou ne pas le fermer, c'est un choix personnel. Alors, écrire un blog, c'est un choix personnel.
On en parlait dans une autre table ronde tout à l'heure où il était question de réseaux sociaux, donc je ne veux pas refaire la table ronde ici. Mais il y a eu quand même des échanges très intéressants sur la question de... On perçoit souvent ces médias comme quelque chose de très instantané, où on met impulsivement quelque chose qui est presque sur le mode de l'oralité, et sans toujours penser que ça reste gravé dans le marbre. Alors là, pour le coup, c'est du mur solide et qui tient longtemps, et alors qu'on avait l'impression d'écrire sur un rideau de fumée ou sur un nuage. Donc on n'est pas toujours très conscient de la nature du mur et du matériau sur lequel on écrit.
Je suis d'accord, mais ça reste toujours un choix personnel. On décide de s'exposer. Si on veut se balader tout nu dans la rue, c'est un choix personnel. Comme je dis, si on habite au rez-de-chaussée et qu'on laisse les rideaux ouverts et que tout le monde peut voir ce qui se passe chez soi, c'est un choix personnel. Si on veut raconter sa vie sur Internet, c'est un choix personnel. Là on parle vraiment de l'intimité du quotidien, de se dire « j'ai pas envie que les gens voient ce qui se passe chez moi ». Alors dans ces cas-là, on n'a pas non plus envie de raconter notre vie sur Internet.
De toute façon, les auteurs sont impudiques, sinon on ne pourrait pas écrire.
Tu voulais dire quelque chose, Dmitri, peut-être ?
Non, en fait, c'est déjà passé le moment. Je voulais revenir au mur et à la question de sécurité, parce que, comme China a touché la question de mur en West Bank, la question israélo-palestinienne, palestino-israélienne. Enfin, on ne peut pas dire que c'est le mur qui cause les problèmes, parce que le mur, lui, il est le résultat de la guerre qui ne cesse pas. Donc c'est les gens qui ont peur, les gens qui ont peur d'autres gens, et ils construisent un mur qui, après, discrimine d'autres gens, qui crée d'autres problèmes, mais c'est pas le premier pas, c'est déjà la cause. C'est le résultat d'une autre cause, donc c'est pas le mur qui cause le problème. Il y avait un problème dont le mur a été la résolution, qui a causé, qui a déchaîné d'autres problèmes, d'autres débats, etc. Mais déjà, c'était le résultat du sentiment d'insécurité qu'une partie de la population israélienne a eu par rapport à la population palestinienne. Donc, c'est le mur, c'est toujours une réponse. C'est jamais la cause.
Mmh. Une réponse qui amène d'autres conséquences. Oui.
I just have to disagree. In the concrete situation of the West Bank wall, for example, I think what you're talking about is in this instance, if you look at the root of the wall, it's actually not even just an expression of anxieties or a creation of anxieties. It's a territorial grab. It's a deliberate attempt to segment off certain territories. But that's just one example of of walls that have been thrown up around history. And again, I can think of, if I say the Warsaw Ghetto, or I think about the walls that were around, you know, Jewish areas of towns at times of high anti-Semitism, I think it, for me, it is too simple to say essentially that the wall is never the cause. I mean, I don't think the wall is ever the sole cause. I mean, I don't think a wall is ever thrown up and successfully kept up in a situation in which there is no fertile ground for hatred, clearly not. But I think in many of those cases, the throwing up of the wall is not just a cause for the creation and exaggeration of certain of those tendencies, but quite deliberately so. And I think I'm not quite sure the extent to which we're talking past each other or genuinely disagreeing. I genuinely can't tell. But I think the formulation as it was put there, that the wall is never the cause, I would actually disagree with. I think there are times in history when people quite cynically think, you know what we need is we need a scapegoat. And one of the things that helps create scapegoats is walls. So let's put up a wall and tell people that the people on the other side of that are the ones to blame. And in certain situations, and not in all situations, but in certain situations, that can work. So I think sometimes walls are very much a cause.
Well, if you speak about the Berlin Wall, for example, it could be cause. But, you know, anyway, it was constructed by the Soviets because they were afraid of the West. Although probably it's the West which had more reasons to be afraid of the Soviets. But anyway, I mean, wall never comes amidst of nothing. It also has its reasons to come and to be thrown up.
Well, the
so
wall, the
it's always a response. Then, of course, you know, the life is not so easy, and all the responses are in their turn a cause for something else. And then it's kind of a chain reaction.
It may be a response. I don't think any ruler throughout history has ever capriciously woken up and one morning said, I'm going to throw up a wall today. However, while it may be a response, I don't think it is always a response to fear. And to give you an example, you know, when you think about you know, the creation of ghettos of Jews in Europe, in pre-Enlightenment Europe, you know, some of the times that the walls around those ghettos, both conceptual and literal, were strengthened were times in which the kings and queens were having great difficulty meeting the interest payments that that they owed to some of the money lenders, the only people being allowed to lend money being the Jews that the kings and queens had deliberately said were the only people who could lend money, and then they could renege on the interest payments by saying, going to throw up a wall and say the people behind that wall are the ones to blame. So in this situation, the wall is certainly a response to a situation. It is not, however, a response to anxiety or fear about Jews. It is a response to a disinclination to pay at one's debts.
Well, I see your great historic interest for ghettos and walls surrounding ghettos, but I think they are still not the most, you know, widespread examples of the walls. And the Great Chinese Wall, for example, is much more obvious and like archetypical example, which is the pure response to the barbarian threat and an attempt to like limit yourself to your borders that you know precisely what they are and protect yourself from them. And I think that, again, you know, the wall itself, of course, is a symbol once it's constructed. But it's never constructed just as a symbol. It's constructed as a response to concrete, a very certain threat. And then it becomes a symbol of whatever, discrimination, injustice, mystery, I don't know, some kind of enemy hid behind this wall, and so on and so on. But when it comes, there should be a reason for it to come, to spring up. You know, and first the reason, then wall, then everything else coming after. No?
We have to disagree on this. I don't think walls are always thrown up for those reasons at all. I think sometimes they deliberately create those reasons.
After they are thrown up?
Yeah.
Yeah, so there is something in the beginning.
The wall.
On peut continuer indéfiniment.
Là, on peut tenir longtemps là-dessus sur le sujet. Mais il y a une chose qu'on n'a pas du tout vue, c'est la deuxième partie de l'énoncé d'Isaac Newton. Les hommes construisent beaucoup de murs et pas assez de ponts. Alors dans ces cas-là, quelle est la raison du pont? Parce que si on construit des murs pour s'enfermer ou par peur de l'autre, pourquoi construire des ponts? Pour sortir, pour inviter l'autre?
On n'a pas parlait, c'est un... On les soutient.
Pour passer au-dessus de l'eau?
Ah, c'est pas mal. Donc, pour aller plus loin?
Bon, on va prendre l'Union européenne. L'Union européenne comme exemple de essai historique pour la première fois de construire des ponts et de détruire des murs. Est-ce que c'est un processus complètement et entièrement positif, qui a beaucoup de succès et qui n'a aucun opposant au sein de l'Union européenne?
Oui.
Oui. Personne,
ouais. Ah non, pardon.
La Constitution européenne, je me rappelle encore, j'ai encore travaillé à Euronews en France quand on a essayé de voter la Constitution.
Ah, on a voté contre.
Voilà, vous avez voté contre parce que vous voulez pas trop de ponts et vous voulez vos murs. Hein. Donc je pense que c'est toujours la question d'une société idéale. Et là, j'aurais mentionné la question de culture, d'identité, encore une fois. On est prêt à construire des ponts quand on ne sent pas la menace, ou quand on est proche culturellement à ceux ou à celui vers lequel ou avec lequel on veut se construire en pont pour se communiquer. Parce que le pont, c'est que la communication. Ouais. Cette communication, c'est l'échange, le pont. Donc, vous voulez avoir beaucoup de confiance dans la personne ou l'État ou la communauté avec laquelle vous construisez en pont. Donc, le pont... Encore une fois, le pont n'est jamais le premier pas. C'est toujours conséquence d'amélioration des relations. D'abord, c'est la diplomatie avec des pigeons. Et après, quand on est sûr qu'on va ne pas taper sur la gueule, c'est là qu'on est prêt à financer une construction d'un pont. Voilà.
On est parti sur une interprétation très politique du mur. Mais il y a des tas d'autres manières de le prendre. La question du pont, je crois qu'on est tous un peu restés quoi devant ta question, parce que je crois pas qu'il y ait d'histoire ni même de vie si on est tout seul. Donc la première nécessité, la première évidence, c'est d'aller vers l'autre, de le rencontrer, de s'approcher de lui pour le toucher. Donc ça, c'est la base non seulement de nos histoires de science-fiction, mais aussi de la vie. Donc une évidence absolue. Et après, je voulais dire quelque chose d'intelligent, mais je sais plus ce que c'était. Ça va me revenir. C'est un petit coup de fatigue. Parlez pendant que je réfléchis.
En fait, toi, ton roman d'Oregon, ce ne sont que des ponts.
Si, j'ai retrouvé.
Ah.
J'étais en train de penser que s'il y avait eu un psychanalyste parmi nous ou un spécialiste du cerveau, il nous aurait peut-être parlé des murs qu'on crée à l'intérieur de notre propre esprit. Et j'étais en train de penser à la schizophrénie. Qu'est-ce qui se passe quand il y a schizophrénie et qu'on coupe son propre esprit en deux? Et qu'est-ce qui se passe du côté des ponts aussi? Et puis, enfin moi, la question du cerveau est une question qui m'intéresse beaucoup. Et on a deux hémisphères cérébraux qui sont relativement différenciés, un qui est plus rationnel, l'autre qui est plus émotionnel, a priori. Et il semble, et ça je trouve que c'est une question intéressante pour des auteurs de science-fiction qui sont aussi des créateurs, et que c'est une question intéressante pour les auteurs de science-fiction qui essaient de faire travailler à la fois leur cerveau rationnel, scientifique, analytique, et leur cerveau créatif, artistique et littéraire. Qu'est-ce que c'est que ces connexions qui se font? Qu'est-ce qu'on gagne à créer ces connexions, qu'est-ce qui se passe au moment de la liaison. Donc je pense que mes camarades ont sûrement plein de choses à dire là-dessus, mais moi j'avoue que la question me paraît complètement fascinante.
Visiblement les camarades n'ont pas grand-chose à dire là-dessus.
J'ai essayé.
See, China?
I'm just anxious about... giving our metaphors too much work to do, like poor embattled donkeys hauling enormous carts, and I fear that, you know, as I fear we may have done with walls, the notion of, you know, bridges, if by bridge we simply mean any time we make any connection with ourselves and anything else, then I wonder if we haven't made our definition so broad that we actually can't learn that much from it. So each of these individual things that has come up is fascinating and worthy of discussion, but I am unconvinced that they are in some fundamental ontological way linked by their bridgeness. Putative bridgeness.
Oui. D'accord. Bon, bah, écoute, je crois qu'on a fait le tour de la question en fait du pont et des murs. À moins que quelqu'un ait envie de relancer sur autre chose. Peut-être des questions dans le public. Public qui a l'air aussi sceptique que nous.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ce qu'on a discuté? Pas
et
moi,
personne,
mais peut-être il y a d'autres.
Oui, la petite fille, là, au troisième rang, a l'air d'avoir tout compris.
Juste une question. Si on prend une rivière et un pont par-dessus la rivière, et si on prend un mur et une porte dans le mur, est-ce que pour vous, c'est la même métaphore ou est-ce que vous voyez une différence?
Moi, je vois une différence.
Alors, laquelle? Eh oui.
Bon, bah, une rivière, c'est un obstacle naturel qu'on doit surmonter. Donc, on est séparé, pas par notre propre volonté, mais par des causes naturelles. Donc, on veut construire un pont parce qu'on veut être ensemble. Et le mur, précisément, est toujours construit par... délibérément et par choix, parce que il y a des raisons. Et la porte, en fait, c'est pas non plus on essaie de surmonter cet obstacle, c'est juste on se réserve une possibilité de sortir de ce refuge dans le cas où on a besoin, dans le cas où tout va bien, dans le cas où on veut aller ailleurs. Donc c'est effectivement, ce sont deux phénomènes différents. Et plutôt on peut comparaître une machine de guerre qui est destinée à casser et briser des murs au pont, ouais, c'est parce que si on veut surmonter, c'est cet accès ouvert, on casse. Et voilà. C'est marrant. Il y a quelqu'un qui veut demander encore un truc?
Non. Oui, une question ici.
Oui, alors est-ce que le pont, c'est pas plutôt au départ de l'exploitation? Plutôt que... Parce que je trouve ça un peu positif de dire qu'on va faire un pont pour aller voir les copains et on va tous devenir amis autour du pont. On va tous circuler. En fait, moi, je vois plutôt le pont comme étant un accès à l'exploitation. C'est-à-dire qu'on va créer un pont pour aller piller ce qu'il y a chez le voisin et ensuite revenir chez nous. Et à la limite, même après, créer un mur pour l'enfermer, lui.
Il y a les ponts à péage aussi, hein?
Oui. Enfin, je ne sais pas, est-ce que...
Alors les navires, les bateaux sont construits pour amener des esclaves, alors. En utilisant une métaphore locale.
Historiquement, il me semble que assez souvent, finalement...
Mais ça dépend, je pense que ça dépend de nos traumas personnels. si on voit un pont comme une possibilité d'aller piller, peut-être c'est quelque chose dans la biographie. Je sais pas.
Bon, de toute façon, il est 8h. Je crois qu'on va aller réfléchir à ça tranquillement chacun dans notre coin. Je vous rappelle que nos auteurs sont en dédicace... très souvent, enfin demain, donc vous pourrez aller acheter leurs livres et les lire. Donc je tiens à les remercier pour avoir brillamment réfléchi autour de la notion de mur et de pont. Je remercie également le traducteur qui fait toujours de l'excellent travail, et puis Dimitri qui parle de nombreuses langues et qui nous l'a encore montré. J'attends des auteurs qui ne parlent que le portugais ou que le kiswahili pour voir si tu es le japonais, si tu es capable de dire la même chose. Et j'attends toujours que notre ami China prenne la parole uniquement en français, mais bon, jamais avec le micro aux mains.
Encore.
Et je vous remercie beaucoup. Au revoir.